Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du CKB Show. Pour ne pas changer, on va enregistrer cet épisode avec Thomas, en direct des États-Unis. Et nous allons aborder plusieurs sujets, des news, quelques news, mais également, on va parler du CES 2018 qui regorge de nouveautés pour les Chromebooks. Thomas, je crois que tu as suivi l'actualité du CES et que tu vas nous en parler. Et puis surtout, avant tout, je souhaite une très très bonne année à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos éditeurs qui vont nous écouter tout de suite ou qui nous écouteront un peu plus tard. Et je te souhaite une bonne année, Thomas.
Salut Nico, bonne année à toi aussi. En effet, on est d'attaque pour une nouvelle année du CKB Show. Et donc comme tous les débuts d'année en janvier, c'est la semaine du CES. Donc pas mal de news. J'ai suivi ça de loin. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Las Vegas pour le voir. Peut-être un jour. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je pense que c'est un truc à faire à un moment donné. Mais le suivre par l'intermédiaire des blogs, c'est aussi une bonne façon de voir un petit peu ce qui se passe.
C'est comme regarder un match de foot à la télé. T'en vois presque plus que quand tu es sur le terrain. Bon, t'as pas l'ambiance, c'est tout.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu
alors
ça.
On a plein de news aujourd'hui pour vous, chers auditeurs, des qui font peur, des qui sont super sympas, puis d'autres qui sont des news. Hein, on va faire simple. On y va tout de suite. On peut parler d'une chose qui fait peur justement. Il paraîtrait, et tu vas me contredire peut-être, mais il paraîtrait que nos processeurs sont hyper en danger en ce moment et pas depuis aujourd'hui. Ils sont en danger depuis à peu près 20 ans et on aurait une faille énorme sur nos Chromebooks, mais aussi nos Mac, nos iPhone, nos Android, bref sur tous les appareils possédant un processeur.
Ouais, alors à ce moment-là, enfin quand vous nous écoutez, si vous avez pas entendu parler de Meltdown et Spectre, c'est vraiment que vous vivez sous un caillou ou alors que vous vous intéressez pas du tout à l'actualité informatique. Ouais. Donc ouais, c'est de ça dont on parle. Il y a comme vous avez probablement vu aux 20h de TF1 parce que je pense que vraiment tout le monde en a parlé partout.
Ouais, c'est ça.
Il y a deux failles assez qui sont très 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 similaires, donc il y a des petites différences, elles ont deux noms parce qu'elles ont été découvertes par plus ou moins deux équipes différentes, mais d'après ce que j'ai compris, même autour de la découverte de ces failles et de la façon dont les choses ont été communiquées, alors faut savoir que les failles importantes comme ça, en général, il y a un premier cercle de personnes qui sont mis dans le secret entre guillemets, mais c'est des choses quand c'est très très critique comme ces failles-là, en général, c'est pas annoncé au grand public dès le début, et donc du coup pendant 6 mois il y a une sorte de couvre-feu ou d'embargo en fait qui fait que les gens qui sont dans le secret gardent l'information pour eux et prévoient la façon dont les choses vont être corrigées en fait. Et donc c'est des failles qui ont été découvertes cet été, et donc pendant quasiment 6 mois on a essayé de garder le secret autour, mais il s'avère qu'elles ont été découvertes par plusieurs équipes en même temps de façon un petit peu différente, mais qui revient quand même un petit peu à la même chose. Oui. Et donc du coup, ces équipes-là revendiquent la découverte de ces failles, d'où les deux noms différents pour ces failles qui sont quand même très très.
Alors moi, j'y comprends rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui ressemble à un petit fantôme, l'autre à un petit bouclier qui bave. c'est très nébuleux pour moi. Bon, je vois bien un processeur parce que j'en ai clipsé dans des cartes mères, hein, un peu façon Lego. Ça marche, bon, très bien. Et a priori, c'est pour pas trop en dire parce que c'est pas mon domaine du tout. En gros, c'est une faille sur l'accès aux données qui sont censées pas se croiser, qui sont censées pas se discuter entre elles, qui sont censées être aléatoires. Et puis en fait, on arrive quand même à récupérer 2-3 informations. Par contre, c'est assez difficile. Il faut vraiment cibler l'utilisateur pour pouvoir y accéder à ça. Donc, en fait, tout le monde est impacté, mais en fait, personne n'aura de vraies problématiques, si j'ai bien compris. Tu me corriges si ça va pas.
Ouais, c'est un peu ça. C'est des failles qui sont donc pour le lire simplement, en fait, c'est des failles un peu structurelles dans la façon dont les processeurs ont été conçus depuis 15 ans. Donc ça veut dire que potentiellement tous les processeurs, un bon nombre de processeurs, un bon nombre d'architectures matérielles en fait de processeurs sont sensibles à ces failles-là. Et le problème, c'est que c'est la façon dont les processeurs ont été conçus. Donc c'est compliqué à patcher, quoi. Il suffit pas de mettre à jour un navigateur pour le patcher. Ou disons que si tu mets à jour ton navigateur, il y a des patchs, en fait, qui sont disponibles. Donc, on va en parler rapidement pour Chrome OS. Mais le problème, c'est que ça tend à réduire un petit peu les performances du processeur. On parle sur certains serveurs de réduction de performance jusqu'à, je sais plus, je crois que c'est 20-25% ou 20% de performance en moins. Donc voilà, donc ça pose plein de problèmes. Je pense qu'il y a énormément de gens très intelligents et particulièrement experts de la question qui sont en train de se pencher là-dessus et qui sont en train de préparer des solutions, mais ce sera pas des solutions finales qui n'arriveront pas avant quelques années au moins.
Donc, juste pour rassurer un peu tout le monde, c'est pas très grave. Elle est là depuis 20 ans, puis on n'est pas mort en fait. La faille, j'imagine qu'il y en a déjà plein qui l'avaient découverte avant, qui s'en sont sûrement servis, et puis finalement nos ordinateurs sont toujours ici. Pour parler un peu des Chromebooks, parce que c'est un peu le thème du podcast, la plupart, voire quasi tous, sont patchés déjà. Il y en a que certains qui sont dits vétustes, enfin si on peut appeler ça comme ça, en fait, qui sont plus dans la boucle de fabrication du tout, qui seront pas patchés immédiatement, mais ils le seront au final. Et donc en fait, aujourd'hui, aucun Chromebook n'est vraiment en danger. En plus, Google a travaillé sur une fonctionnalité expérimentale que vous pouvez tous activer justement pour séparer les processus les uns des autres, donc qu'un onglet ne puisse pas accéder à un autre onglet, enfin des données d'un autre onglet. Je vous laisserai le lien de la fonctionnalité expérimentale, décidément j'ai du mal aujourd'hui, sur les liens du podcast. Vous pouvez l'activer, ça prend 3 secondes et ben c'est une protection supplémentaire. Évidemment ça ne change pas le processeur, il est toujours comme il est, ceci dit au moins vous n'aurez avec ça déjà quelques fonctionnalités qui seront protégées. Moi, je voulais, on en a parlé un petit peu avant pendant la préparation, je voulais parler d'un podcast qui traite super bien, enfin même 2 podcasts. Moi, j'ai parlé du premier, tu parleras de l'autre, hein, Thomas. J'ai parlé d'un podcast français qui s'appelle Tech Café et surtout de l'épisode 69. Alors, c'est les 2 Guillaume. Ils échangent justement sur ces 2 failles et ces 2 failles sont juste, pour moi, très compliquées à comprendre. Et ils ont une façon de l'expliquer qui est juste géniale avec une histoire de castor. Qui cachent des noisettes, parce que oui, les castors mangent aussi des noisettes, visiblement, et ils font vraiment des choses super intéressantes, et ils l'expliquent, ils le banalisent d'une façon hyper sympa. Donc, je vous invite à y aller, je mettrai le lien dans le podcast. Toi, tu voulais parler d'un autre podcast, Thomas ?
Ouais, je voulais faire un plus un sur l'épisode de Tech Café que j'ai écouté, qui en est fait très très bon. Et Tech Café est un super podcast. Si vous connaissez pas, je le recommande vraiment chaleureusement. Et du coup, oui, je voulais parler aussi du Comptoir Sécu, qui aussi est un très très bon podcast, un peu plus, un tout petit peu plus technique et un tout petit peu plus avancé, qui se focalise en particulier sur la sécurité. Et donc, ils ont fait un très 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 bon épisode, l'épisode du 16 janvier, donc il y a pas très très longtemps. D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'épisode d'avant en fait. Mais bref, un des épisodes, on va vous mettre le lien dans les show notes, qui parle en détail de Meltdown et Spectre, et ils font un très très bon travail de vulgarisation de la question. Ils admettent aussi, en étant des experts de la sécurité, de pas forcément maîtriser l'intégralité des enjeux. Donc j'aime bien le côté humble en fait avec lequel ils approchent le sujet, en disant c'est vraiment un sujet d'expert, mais pas d'expert de sécurité, vraiment d'expert d'architecture logicielle, enfin, d'architecture matérielle plutôt. Donc on va essayer de vous expliquer les choses du mieux possible, mais rendez-vous bien compte que ça reste quand même, c'est vraiment un sujet d'expert sur,
ouais, sur donc ces questions-là. C'est bien celui du 16 janvier, hein, je viens de l'ouvrir, je me suis abonné à leur podcast parce que j'y étais pas. D'accord. Désolé, ça y est, c'est fait, un de plus. Faites pareil pour nous, pour Tech Café et tous les autres podcasts de l'univers. On pouvait voir aussi, là t'as rajouté, je viens de voir sur les notes, j'avais pas vu, qu'on peut voir si notre Chromebook est patché, c'est ça, hein, si je me souviens.
Ouais, c'est ça. Donc en plus du patch que tu suggérais là pour la fonctionnalité spéciale qui te permet de séparer les tabs, en fait, enfin les onglets, en fait, il y a aussi un moyen de vérifier que le kernel, le noyau de Chrome OS est à jour en fait. Et du coup, il semblerait que si votre kernel, enfin si votre noyau est 3.18 ou 4.4, a priori, vous pouvez vous estimer protégé de la faille. Il y a un bon article de Chrome Unboxed en anglais, mais bon, j'avoue que là, ça dépasse un petit peu mes compétences techniques. Mais voilà, donc vous pouvez faire Chrome 2. /GPU pour voir quel noyau vous utilisez. Et a priori, ouais, 3.18 ou 4.4, vous êtes hors de danger.
Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui sont déjà patchés. Hein. Bon, on finit sur ça, voilà. Parce que ça fait peur quand même.
Voilà. Ouais, c'était la parenthèse, voilà. La parenthèse sécurité. Voilà, on va
vous parler un truc super sympa. Google travaille sur des systèmes de messagerie vocale visuelle. Enfin, vous en avez tous entendu parler. Et là, une news qui est tombée il y a quelques jours, qui parle de Google Duo, un truc que vous utilisez peut-être sur votre smartphone. Moi, j'en suis assez fan sur mon téléphone Android parce que la visioconférence est, enfin la conf. Comment on appelle ça quand on est que deux, une visioconférence quand même, le fait de voir l'autre personne, ouais. Marche super bien, est très fluide. Moi, j'ai une bonne qualité même sur de la 4G, 3G à l'endroit où je travaille, et j'utilise beaucoup. Ça marche mieux que sur Hangout pour moi, et la bonne nouvelle, c'est que ça arrive prochainement. Alors quand, on n'a encore pas de délai, on n'a encore pas de date. C'est un tweet qui est passé pas incognito, d'ailleurs il n'est pas passé incognito du tout, tout le monde l'a retweeté, qui nous dit que Google travaille sur le portage de Google Duo directement dans son navigateur Chrome, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs pour Allo. Tu l'utilises toi, Google Duo, sur tes appareils?
Je pense que la dernière fois que j'ai utilisé, ça devait être il y a un an. Donc c'est pour te dire là. Mais t'as raison, hein, c'est marrant parce que c'est un très très bon outil, ça marche très bien. La qualité, en fait, en gros, quand le débit tombe, le débit de la 3G ou de la 4G descend, il vous met automatiquement en mode voix, ouais. Donc il vous cache la vidéo. Et il maintient la qualité de audio. Enfin c'est vrai que c'est un bon outil, et c'est une bonne application plutôt. Et bah tu vois, je l'utilise un petit peu, mais j'ai arrêté de l'utiliser.
Et donc sais peut-être pourquoi
la réinstaller et me remettre à l'utiliser.
Parce que personne.
Parce que personne l'utilise. Ouais. C'est vrai que a priori ce genre d'outil, si t'es tout seul à l'utiliser, bah ça marche pas très très bien. Mais
Il travaille dessus. On l'a pas rajouté. Je l'avais pas dit. Je voulais en faire un article et puis j'ai pas eu le temps. Il travaille sur le fait que tu pourrais. Alors ça marche aussi sur Allo, je crois. Tu pourrais lancer une conversation avec quelqu'un même s'il n'a pas l'application. Donc il reçoit une notification, il peut y accéder. Donc peut-être c'est peut-être pour ça qu'ils veulent le mettre dans le navigateur Chrome, pour que les gens qui ne l'aient pas y accèdent par le navigateur Chrome qui est installé dans leur smartphone ou de leur tablette ou leur ordinateur. Et à la fin de la conversation, en fait, il te demande si tu veux l'installer. Alors je l'ai pas encore vu en activité ce truc-là, mais j'en ai entendu parler, j'ai plusieurs retours dans ce sens-là. Ça peut être sympa. Donc du coup, on va peut-être avoir plus de monde qui utilisera Duo. Et puis, il me semble que dans beaucoup de téléphones Android, l'application Duo est préinstallée.
Ouais, c'est très possible. Ouais, je pense l'avoir préinstallé sur le téléphone. Oui, ce que tu décris là, c'est une bonne stratégie de croissance en fait. De faire en sorte que même les gens qui n'ont pas l'application puissent partiellement utiliser le service et potentiellement installer l'application derrière. Ouais. C'est une bonne idée, mais c'est vrai que ouais, en fait, en gros, c'est l'équivalent de FaceTime mais chez Google, quoi, pour le dire honnêtement. Donc les gens qui utilisent leur iPhone utilisent FaceTime, je sais pas, peut-être ceux qui l'utilisent le plus souvent l'utilisent plusieurs fois par semaine, mais je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent pas beaucoup plus que quelques fois par an. Malgré tout, ça reste un bon moyen de faire de la visioconférence, mais je sais pas, je pense qu'il y a une question culturelle aussi derrière.
Ah bah oui. Parce que
c'est plus un problème culturel.
Je vois mes parents avec ça, je vois plus leurs oreilles que leur visage quand tu as vidéo. Faut pas compris qu'ils allaient regarder, et puis quand ils arrivent à mettre la cam devant eux, en fait, ils c'est Spielberg, quoi, ils font des travelling arrière, des travelling avant, des contre-plongées. C'est horrible. T'as envie de vomir à la fin de la. Donc oui, c'est des questions culturelles et générationnelles. Alors que j'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes que mes parents, forcément, qui eux l'utilisent FaceTime parce que eux c'est des méchants, ils utilisent Apple, mais ils utilisent FaceTime quasiment tous les jours et je les vois utiliser ça et ça marche super bien. Enfin, franchement, ça marche bien. Et, ouais. Bon, la différence avec FaceTime pour Duo, c'est que FaceTime, tu peux pas l'utiliser sur un autre appareil. Il y a pas de portage prévu sur un PC ou un Chromebook ou je sais pas quoi ou Linux. Alors que si ça marche bien, Duo va arriver sur tous les appareils, y compris Mac. y compris iOS. Donc ça voudrait dire que Google essaierait de s'inviter chez Apple, ce qu'ils font très souvent d'ailleurs, puisque c'est le moteur de recherche par défaut de Apple, Google. Bon, ça coûte quelques milliards de faire ça, mais ils s'invitent tranquillement chez eux. Donc je pense que Duo, on va le voir arriver petit à petit et de plus en plus fort, et je peux te dire que pour l'utiliser, moi je l'utilise assez fréquemment, du coup il est très simple, hyper réactif, et moi j'aime bien la qualité d'image et de son, contrairement à Hangouts que j'utilise beaucoup aussi, mais pour d'autres choses, parce que j'ai pas envie de donner forcément mon numéro de téléphone à tout le monde, donc Hangouts l'avantage c'est que j'ai pas besoin de le donner, donc j'aime bien Duo pour échanger avec des proches, ou pas trop proches, mais pas des gens que je connais pas quoi.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que tu fais bien de noter que la qualité d'image est beaucoup mieux que Hangouts. Alors, faut croire que ça marche pas exactement de la même façon en termes de protocole de vidéo utilisé. Mais c'est vrai que ouais, c'est un logiciel de très très bonne qualité. L'expérience est très très bonne. Donc voilà. Donc on va probablement l'utiliser un peu plus. En parlant du futur. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe sur le front de Fuchsia OS?
Alors là, une nouveauté neuve, Fuchsia OS, bon, vous le savez tous, on en a déjà parlé au moins deux fois dans les précédents épisodes du CKB Show. Google travaille sur un OS secret. Alors, il n'est plus si secret que ça parce que tout le monde en parle. Hein, donc, le secret, normalement, c'est quand personne ne le sait. Là, ça fait plusieurs mois qu'on entend parler donc de Fuchsia OS, qui est un système d'exploitation. On ne sait pas vraiment à quoi il va servir. On ne sait pas vraiment s'il veut remplacer Android, s'il veut remplacer Chrome OS, s'il veut les fusionner les deux. En fait, on ne sait presque rien. Sauf que depuis quelques jours, on a une belle avancée au niveau de ce système d'exploitation. Il fonctionne enfin sur un produit, donc réellement sur un ordinateur, il fonctionne sur le Pixelbook. Donc Google est allé très loin, puisque déjà c'est un OS fonctionnel cette fois. Une vidéo est sortie d'ailleurs, on mettra peut-être le lien de la vidéo histoire de voir à quoi ça ressemble. C'est pas encore génial, hein. Il y a du travail à faire, mais bon, au moins il existe. Ils ont sorti même un document pour aider les possesseurs de Pixelbook à installer Fuchsia OS. Donc bon, un nouveau système d'exploitation. Est-ce que c'est nécessaire? À quoi ça va servir? J'en ai aucune idée. Peut-être que toi, tu sais plus de choses que moi dessus. Moi, je suis un petit peu perdu sur ça. Pour moi, ça va pas remplacer ni Chrome OS ni Android. Ça sera plus pour autre chose, mais peut-être des appareils connectés ou je sais pas, Joker. Voilà. Enfin, à toi de. Je sais pas, ouais, Thomas. Dis-moi.
On parle, je pense qu'on n'a pas besoin de rebaptiser le podcast tout de suite pour être le CK et Fuchsia Show. Je pense que ça va prendre du temps avant d'arriver sur nos machines. On parle vraiment d'un futur. On parle pas non plus dans 150 ans, mais c'est un futur lointain à l'échelle technologique, quoi. C'est la première machine sous Fuchsia, à mon avis, elle sera pas dans vos mains avant au moins 3-4 ans, quoi. Mais après, faut savoir que Android a pris, je crois que d'ailleurs dans la vidéo dont tu parlais, la vidéo de présentation du Pixelbook, le journaliste de Ars Technica dit Android a pris 4 à 5 ans pour être développé. Et puis après, une fois qu'il a été développé, les premiers téléphones sont sortis, mais ça a pris encore 4 à 5 ans pour devenir, on va dire, grand public. Donc voilà. Donc je pense que Fuchsia, on est au début d'un cycle qui durera peut-être une dizaine d'années. Avant de devenir aussi populaire que peut l'être Android aujourd'hui ou même Chrome aujourd'hui, enfin Chrome OS aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant. Les gens qui sont développeurs vont probablement commencer à s'intéresser au sujet dans quelques années. Et puis les gens qui ont envie de commencer à bidouiller, ben ils peuvent commencer à le faire dès aujourd'hui. Peut-être qu'on aura un dual boot. D'un Pixelbook de chez Google l'année prochaine, dans 2 ans, je ne sais pas. Mais je pense que ça prendra.
C'est étonnant temps de travailler sur plusieurs systèmes d'exploitation comme ça. Enfin, je reprends la news juste avant. On a un Hangout qui faisait vidéo, qui faisait texte. Maintenant, on a Halo et Duo qui font l'un, fait pas l'autre, enfin ainsi de suite. Là, on va retrouver, on a Chrome OS et Android. Maintenant, on va avoir Fuchsia OS. Donc, c'est bizarre la façon dont Google. Donc Google travaille ses produits et les développe. Moi, je suis un petit peu perplexe, tu vois. On avait Hangouts, ils l'ont divisé en deux. On a Android et Chrome OS, ils vont le réunir peut-être. Tu vois, c'est bizarre, c'est étonnant. Bon, après.
Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que c'est pas forcément on va dire, ouais, pour le public, ça peut paraître un petit peu, tu te dis, bah oui, j'hésite à acheter un Chrome OS et un Chromebook, et maintenant, on parle de fuchsia, qu'est-ce que, non, je pense que c'est vraiment une information qui est, enfin, tu vois, à l'époque, dans les années 80, les fabricants d'ordinateurs avaient tous leur OS et travaillaient tous sur des OS, et donc il y a des OS qui marchaient, d'autres qui marchaient pas, ou certains qui étaient lancés, d'autres qui étaient abandonnés. Je pense que Google est devenu tellement grand qu'on en est un petit peu à cette situation-là. Ils sont en train de préparer ce que sera les 20 prochaines années de Google. Et il y a de grandes chances pour que Fuchsia, peut-être pas sous la forme actuelle, mais sous une forme ou une autre, fasse partie de ce que sera Google dans les 20 prochaines années. Mais c'est pas complètement illogique pour eux de créer leur propre plateforme. Un truc aussi que je voulais ajouter super rapidement, faut savoir que en fait ça tourne pas sous Linux. Donc ils ont vraiment réinventé. En général, la plupart des systèmes d'exploitation qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Mac OS, c'est pas exactement Linux, mais enfin la plupart des systèmes d'exploitation, en gros, il y a trois grosses familles de systèmes d'exploitation. Il y a les systèmes qui sont basés les Windows, les systèmes qui sont basés sous Linux, et puis après bon les systèmes qui sont basés sous des dérivés de Linux, on va dire BOS et compagnie. Et là, on se retrouve face à quelque chose qui est ils ont presque réinventé la roue en fait. Donc c'est aussi assez notable de ce point de vue-là. Mais encore une fois, un téléphone sous Fuchsia OS grand public que ma mère ou tes parents dont tu parlais tout à l'heure utilisent, je pense que ça il va falloir attendre.
Ouais, ils veulent peut-être faire la même chose qu'Apple finalement. Apple qui maîtrise tout de bout en bout.
Ouais, voilà. Je pense qu'il y a, enfin, c'est assez logique pour eux finalement de s'affranchir de l'architecture Linux, qui est en plus une architecture, l'architecture Unix, ça a presque 35 ans maintenant. Enfin, c'est une architecture qui est quand même très très ancienne. Donc finalement, à un moment se dire bon allez, on crée tout de zéro et puis on essaie de voir où ça va, c'est pas complètement illogique. Mais c'est vrai que bah oui, il va falloir attendre plusieurs années, voire peut-être même une grosse décennie avant que ça devienne quelque chose. Qui arrive dans les mains
de garde sous le coude et puis de toute façon on revient vers vous pour vous dire ce qu'il en est si ça sort plus vite, si on a des news intéressantes et si on sait où ça va.
Exactement.
On continue avec le, alors mieux là ça c'est cool puisque c'était le salon, le CES Consumer Electronic Show si je me trompe pas, 2018. Le salon le plus attendu pour moi personnellement, je pense que c'est le salon que je préfère. J'y suis jamais allé, mais c'est celui où j'ai le plus de news qui m'intéresse, qui parle pas forcément que des smartphones, qui parle pas que là on a vraiment un univers très complet. Et cette année comme l'année dernière, on parle évidemment de Chromebook, on parle de quoi, on parle d'Android je crois, enfin on parle beaucoup de Google de toute façon sur ce CES 2018. On parle de des Chromebooks déjà hein, pour commencer. T'es d'accord avec moi, c'est normal, c'est KB chaud.
Ouais. Et puis c'est vrai que en général c'était un peu devenu le salon des télés depuis on va dire au cours de la dernière décennie. Donc il y a des télés sous toutes les formes. Je sais pas si vous avez vu l'exemple de cette télé qui s'enroule sur elle-même. Donc je pense que ça c'était le meilleur exemple. Mais c'est vrai que ça devient aussi de plus en plus un endroit où on parle de Google, donc que ce soit Android, Chromebook et puis assistant dont on va vous parler un petit peu plus tard. Donc voilà, donc les annonces, tous les fabricants d'électronique du monde, les petits, les gros, beaucoup de constructeurs asiatiques font le déplacement dans CES pour présenter leur nouvelle gamme de produits ou présenter leur nouveau produit.
Cette année, pour la petite info, enfin je sais pas si tu le savais, mais le CES c'est super vieux. Ça existe depuis 67.
Ouais, c'est un truc de temps. Ouais.
Et avant d'être dans la tech, j'en avais jamais entendu parler, hein, perso. Hein. Pourtant, ça, voilà, c'est juste hyper vieux comme produit. Et cette année, on a un petit cocorico parce qu'on a énormément de représentants français qui ont été sur le salon. Alors, j'ai plus les stats. J'avais un super diagramme que j'ai perdu, un super machin. Mais il me semble qu'on est pas loin de trois quarts des France, enfin des représentants étaient français. Alors, bien sûr, on a des gros constructeurs chinois, coréens et compagnie, mais on avait pas mal de petites startups qui étaient là-bas, qui étaient représentées. Donc, c'est cool d'avoir des Français au CES. De montrer qu'en France, on a des idées et puis on sait les exploiter et les mettre, les créer de bout en bout et peut-être de vendre des produits juste exceptionnels. Et peut-être que tu reviendras en France, Thomas, parce que la Silicon Valley, c'est bientôt en France.
D'accord, ok. Je regarde ça. Je regarde ça.
Alors du coup, on a plusieurs annonces sur les Chromebooks, enfin sur Chrome OS, hein, pour simplifier, parce qu'il n'y a pas que des Chromebooks. Il y a HP qui a fait une petite présentation assez intéressante sur trois produits, deux Chromebooks, le HP 11 et le HP. J'ai perdu le nom. 14, je crois. 14.
Ouais, c'est ça. 14. 11G6 et 14G5.
Ouais. Les noms. C'est simplement l'évolution des autres, en fait, de ceux qui étaient là avant, Chromebook 11 et le Chromebook 14. C'est juste une évolution, c'est le G5, justement, G6 et compagnie qui.
C'est génération, en fait, donc c'est le 5e, le Chromebook 14.
Apparemment, c'est ça. C'est pas dit tout le temps, mais les produits, en fait, ceux qui ont remplacé les autres, donc il n'y a pas une grosse évolution, si ce n'est que moi, j'ai aimé sur le Chromebook 14, ce que j'ai aimé, c'est son clavier rétroéclairé. Qui a été mis dedans, donc ça c'est plutôt sympa d'avoir un produit comme ça. Il n'y a pas énormément de nouveautés, comme on le disait à la préparation. On a eu un manque, enfin toi et moi, il manque un bouton sur le Chromebook, et je trouve ça hyper dommage de pas avoir eu ce bouton apparaître sur le.
C'est le bouton. C'est, ouais voilà, siège c'est ça. Rétable.
Personne. Hein. Mais c'est pas sûr en fait que je voulais dire. On y pensera pour le prochain. C'était le bouton assistant. Google Assistant, parler des deux plus tard, mais j'ai insisté sur Google Assistant qui est apparu sur le Pixel Book dernièrement et qui fait défaut sur les deux nouveaux Chromebooks de la marque de HP. Alors, est-ce que c'est HP qui a été pris de court par Google ? Ils étaient déjà partis sur un produit déjà fait, fabriqué en grosse quantité, ils n'ont pas pu revenir en arrière pour rajouter cette touche, ou c'est une volonté de Google de pas laisser Assistant aux autres fabricants, je sais pas. Peut-être t'as ton idée là-dessus.
Ouais, non, c'est vrai qu'on spéculait un petit peu avant l'émission. On sait pas si c'est qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Tu t'as répété ce que je m'apprête à dire. Enfin, t'as dit ce que je m'apprêtais à dire. Je pense que on va attendre un petit peu de voir comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu surpris et déçu aussi de voir que finalement les Chromebooks de cette année ressemblent énormément aux Chromebooks de l'année dernière et que en dépit du support d'applications Android, finalement, il n'y a pas tellement de différence.
Il y a une différence. Ils sont colorés maintenant. Il y en a des jaunes, il y en a. Voilà. Comme ça, tu les retrouves quand tu les perds dans l'herbe. C'est une fonction supplémentaire qu'ils ont rajoutée. Découverte Chromebook quand on l'a perdu. Voilà. Mais bon, après, ils sont super jolis, hein. Aluminium. C'est des beaux produits, hein. J'ai pas les tarifs pour la plupart. J'en ai qu'un. Je crois que le Chromebook 11 aux alentours de $249 dans mes souvenirs. Mais j'ai pas le tarif du 14 par exemple. Après ça reste des très très beaux produits, hein. On a toujours des grosses batteries. Évidemment, ils sont compatibles Google Play Store, hein, évidemment. Sont disponibles en version 32 Go, 16/32 dans mes souvenirs. Ils ont rajouté des ports USB, comme d'habitude, et c'est un beau produit. Visiblement on pourra peut-être les acheter courant avril. Et devinez quoi, uniquement aux États-Unis. Bon, ça veut pas dire qu'ils viendront pas en France, parce que Acer en France, ils sont très très présents quand même. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils viendraient en France, mais ils savent pas encore quand. Donc si Acer s'ils peuvent me donner la date, je sens que beaucoup de lecteurs beaucoup d'auditeurs, seront contents de savoir quand est-ce qu'ils arrivent en France, parce que aujourd'hui, on tourne un petit peu en rond sur les produits déjà existants. Donc ça serait bien d'en avoir d'autres. Donc.
Ouais. Et puis avant juste de parler de la Chromebox, un constructeur qu'on attendait qui n'a pas été au rendez-vous, c'est Samsung aussi avec le fameux Nautilus. Donc Nautilus, je pense que c'est un nom de code, ou alors ce sera un Chromebook aussi sous-marin, on va voir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pas mal de news qui sont en train de sortir autour du Nautilus, mais finalement c'est un Chromebook qu'on n'a toujours pas vu, dont on sait pas forcément grand chose, si ce n'est que Samsung travaille dessus et qu'a priori donc l'écran
c'est ça, ouais, c'est en clavier, fait c'est ils font un produit, enfin ils font un Chromebook où c'est plus une charnière à 360 degrés, c'est une charnière à 360 degrés, mais c'est aussi uniquement une tablette, donc on pourrait le détacher, tout ça. Après, comment ça va fonctionner, ça reste encore assez nébuleux. Une batterie, du coup j'imagine qu'il y aura deux batteries, une dans la tablette, une dans le clavier, ou pas, j'en ai aucune idée en fait, j'imagine, hein, c'est tout, je subodore des choses. Un stylet, bon, par contre, ouais, le gros truc, c'est que il n'était pas là, Samsung, enfin pas en Chromebook, et c'était Dommage. Donc, est-ce qu'ils attendent d'avoir finalisé leur produit qui soit vraiment béton? Est-ce que ils ont voulu attendre d'avoir accès à la touche assistant, peut-être, parce qu'ils l'ont pas sur leur Chromebook, donc ils se sont dit, on va attendre un petit peu, on va la rajouter. Possible aussi, hein. Ouais. Donc fonctionne aussi avec un stylet, enfin un vrai beau Chromebook apparemment, qui rivaliserait avec le Pixelbook. Donc d'après ce que j'ai compris, ça reste un très haut de gamme. Donc faut s'attendre à un prix aussi haut de gamme.
Ouais, c'est prix haut de gamme. Ouais. Donc les Chromebooks, les Chromebooks existent encore. Il y a encore des Chromebooks qui sont lancés. Donc la dernière d'Asus 3.
On en a pas parlé, mais HP en a sorti une aussi, hein, de Chromebooks. C'est une évolution de celle qu'ils avaient avant, hein, c'est ni plus ni moins. Là, c'est Asus. On va parler plus de l'Asus parce que les pauvres ils sont un petit peu. On en entend un peu moins parler, ils sont moins présents sur le marché. Simplement, ils intègrent des puces Intel, donc potentiellement avec les failles Meltdown et Spectre, du coup. Mais c'est des processeurs Intel Core de 8e génération, donc on va avoir quelque chose qui devrait être sympa à l'utilisation. Ils ont décidé d'intégrer aussi un port USB-C, donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien l'USB-C, j'en parle tout le temps. Tous mes produits sont en USB-C, donc j'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas de problème avec ça. J'ai deux Chromebooks d'allumés devant moi, ils sont en USB-C. J'ai un Samsung, j'ai le Note 8 en USB-C, j'ai le S8 Plus à côté en USB-C. Bref, tout est en USB-C chez moi. Donc ça c'est cool, j'aime bien. Pour la petite histoire, une Chromebook, en fait, je vais peut-être expliquer parce que certains ne connaissent pas, parce qu'on entend beaucoup parler des Chromebooks, mais les Chromebooks c'est ni plus ni moins qu'une mini tour de PC. Donc vous avez juste la tour, carte mère, processeur, carte graphique et compagnie à l'intérieur, que vous branchez sur un écran externe, un clavier et souris externe, et puis vous avez votre ordinateur de bureau. Alors l'écran peut être une télé, hein, donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien ce système là, ça reste pas cher à acheter tout seul. Bon, après il faut le matériel autour, mais si vous avez un écran et clavier souris, c'est super sympa. Si vous baladez pas avec votre Chromebook dans votre poche ou dans votre sac tout le temps, vous en avez pas besoin en mobilité, je pense que c'est un bon compromis. Et surtout ça fait pas de bruit, il y a pas de ventilateur, hein, c'est du fanless aussi, et c'est pas du tout. Donc moi j'aime bien les Chromebooks. Alors j'en ai pas parce que je me balade beaucoup avec mes produits, mais j'étais plus sédentaire, je pense que c'est ce que j'aurais pris plutôt qu'un Chromebook perso. Voilà. Donc une bonne news quand même que Asus n'abandonne pas. Voyons ce que ça donne plus tard. Est-ce qu'ils vont nous sortir aussi des Chromebooks? Est-ce qu'ils vont parce que Asus est un petit peu discret sur ce marché.
Ouais, et puis aussi un truc à ajouter sur les Chromebooks, c'est aussi du matériel qui est utilisé pour le système de visioconférence de Google. Je sais, on en avait parlé un petit peu, on utilise Hangouts pour toutes nos visioconférences au boulot, et donc derrière chacune des télés qui sont utilisées pour la visioconférence, il y a une petite Chromebook. Alors je sais plus exactement laquelle, mais en général, c'est du matériel. Comme c'est du matériel qui est assez abordable, là, je sais pas. Les prix n'ont pas été annoncés.
Mais généralement, ça vaut moins de, 200, 250 maxi, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est du matériel qui est assez abordable. Donc, ça, plus la télé, plus la caméra. Bon, ça monte un petit peu, mais on se retrouve avec une combinaison qui est au-dessous des 1000 $, au-dessous des 1000 €.
Ce qui est clavier et souris, t'achètes ça à 15 balles dans une grande distribution, t'as pas besoin de, après tu filaires évidemment, mais tu t'en fiches que ça soit filaire, et puis t'as peut-être un vieil écran qui traîne chez toi, t'es pas obligé forcément de racheter un écran. C'est ça qui est intéressant avec la Chromebook, c'est que si t'as un bel écran, une télé même, hein, pourquoi, parce qu'il y a une sortie HDMI, tu le mets sur ta télé du salon, là tu prends t'en files, quoi.
Et c'est ça dont je parlais, en fait, c'est dans le contexte professionnel, en fait. En général, tu te ramènes rarement avec ta vieille télé que tu viens mettre dans la salle. Enfin, pourquoi pas, remarque. Mais en général, les.
Chaque employé.
Voilà. chacun ramène sa télé pour mettre dans les salles de réunion. Non, c'est à ça que je pensais, en fait. En général, quand les clients professionnels s'équipent, en général, ils achètent du matériel neuf. Et c'est vrai que finalement, avec le minimum des micros, les micros de visioconférence, les moins chers sont assez abordables. Et puis après, avec une télé moyen de gamme ou entrée de gamme, finalement, on a un bon système de visioconférence pour pas très cher. Et voilà, donc les Chromebooks sont quand même pas mal utilisés dans ce contexte.
Moi,
non,
c'est
aussi.
Bien. Moi, c'est un bon compromis. J'aime bien. Je suis assez fan. Il faudra rajouter une webcam, du coup, hein, parce qu'il n'y en a pas dedans, hein, si vous voulez faire de la visioconférence. Ça reste qu'une tour, hein, donc une petite webcam. Et Chrome OS prend en charge les webcams externes en USB. Il n'y a pas de problème. Que ça fonctionne super bien. On sort un petit peu des Chromebooks, de Chrome OS. Ça, c'est rare qu'on en parle, mais finalement, ça se rejoint beaucoup. On va parler un petit peu de Google Assistant. Sur le CES 2018, c'était un petit peu... Google était un petit peu omniprésent, en fait. Il était partout. Ils ont dû investir des milliards. Je sais pas combien ça coûte, toutes ces publicités, mais il y en avait partout. Vous avez pas pu le louper, hein. Enfin, je sais pas, si t'as Twitter, tu peux pas le louper. Enfin, je...
Moi, non. Ouais. Non, ils avaient en fait c'est marrant parce que c'est vraiment comme d'habitude Google ne fait pas enfin se met un peu à faire comme Apple, ne fait pas les choses comme tout le monde et en fait, ils ont pas créé un stand à l'intérieur du show floor, enfin là des comment est-ce qu'on appelle ça du palais des congrès et des hôtels des salles d'hôtel pour le CES, ils ont carrément sur le parking en fait recréé leur propre bâtiment. Dans lequel ils présentaient en fait assistant. Donc ils ont créé un bâtiment un mini, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça quoi. En gros un préfab de plusieurs étages quoi, dans lequel ils présentaient tout ce que tu peux faire avec Google Assistant et ils présentaient les nouvelles avancées de Google Assistant. Donc voilà. Donc Google a vu les choses en grand, sans parler des affiches publicitaires dans tout Las Vegas qu'ils ont acheté, comment est-ce qu'on appelle ça, le monorail de Las Vegas, donc l'équivalent du tramway qui était redécoré aux couleurs de Google. Enfin, ils ont vraiment fait les choses.
Voulait le louper, c'est qu'on était aveugle et sourd, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Voilà, du coup, pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'année dernière, souviens-toi, au CES 2018, ceux qui avaient envahi le CES, c'était pas Google, c'était Amazon avec son assistant. Alexa. Donc le concurrent direct de Google Assistant. Et donc cette année, la bataille était dure, visiblement, si on se base juste sur l'omniprésence, c'est Google qui a gagné. Sur le CES, ça ne veut pas dire qu'Alexa est dépassée, loin de là. Hein. A priori, il y a beaucoup de monde qui aime Alexa. J'ai pas eu l'occasion de le tester, moi, donc je vais pas me prononcer sur lui. Par contre, sur Google Assistant, on va pouvoir en parler un petit peu.
Ouais, faut savoir que aux États-Unis, alors c'est vrai qu'en France, Alexa n'est pas encore disponible, mais il est disponible aux États-Unis et au Canada d'ailleurs, et en Allemagne aussi. Je sais pas pourquoi la France a été boudée, ouais. Mais c'est vrai que d'ailleurs est-ce qu'il est disponible en français? Peut-être qu'en fait je suis en train de me planter. En fait, Alexa doit pas être disponible au Canada parce qu'il est pas disponible en français. Mais par contre, il est disponible en Allemagne. Mais c'est vrai que c'est très 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 présent ici aux États-Unis, quoi. Enfin, dans beaucoup de foyers américains, il y a Alexa parce que Alexa était les premiers et puis Amazon a poussé énormément Alexa pendant tout un moment au cours de cette année et puis l'année précédente, et donc c'est vrai qu'il dispose d'une base installée comme on dit qui est quand même assez importante ici, et Google est en fait en train de refaire tout doucement, et en particulier avec le Google Home Mini. J'ai appris que apparemment ils vendaient un Google Home Mini toutes les secondes depuis que le Google Home Mini a été lancé. Donc c'est vraiment ça devient un raz-de-marée en fait, et donc Google est en train de refaire son retard avec le Mini en proposant finalement quelque chose qui est assez abordable et qui est assez compétitif par rapport à Alexa.
Et du coup, ce qu'on peut noter aussi, c'est que derrière, OK, on parle d'Alexa, on parle de Google Assistant. Par contre, tu m'as justement bien dit qu'il y avait quand même deux absents de taille. Je vais te laisser les dire parce que c'est toi qui as la news, mais enfin qui veut aborder le sujet, mais il y a quand même les deux gros du marché, ils sont pas là, quoi.
Ouais, en effet, ouais. Cortana et Siri, on sent un peu aux abonnés absents. Alors bon, Cortana, je sais qu'il y a un partenariat assez fort entre Cortana et Alexa, et c'est normal puisqu'ils sont voisins finalement. C'est le comment est-ce qu'on dit, l'axe du Pacifique Pacifique Nord entre les deux géants technologiques de l'État de Washington. Parce que Cortana c'est Microsoft et Alexa c'est Amazon, mais c'est vrai qu'il y a je crois qu'il y a un partenariat et on peut parler à Cortana par l'intermédiaire d'Alexa, J'ai jamais eu l'occasion de tester, mais je sais que ça existe. Et par contre, Siri, pour le coup, c'est vrai qu'en dehors de votre iPhone et puis du Mac aussi, parce que maintenant ils ont ajouté ça sur Mac, on se rend compte qu'il y a quand même pas beaucoup d'intégration en fait avec tous les gens qui fabriquent du vrai matériel. On voit des intégrations avec Alexa, on voit des intégrations avec Google et Google Assistant, mais on voit pas beaucoup d'intégrations avec Cortana.
Peut-être, alors Cortana, moi je l'ai utilisé une fois, ça marchait pas, mais c'était à ses débuts, donc j'imagine que ça a évolué. Par contre, Siri, je vois personne s'en servir, alors que en France, les iPhones sont assez présents, c'est un marché important pour Apple, enfin, même si on est moins nombreux qu'aux États-Unis. Mais Siri, à part pour lui demander une blague, et encore, il sait pas les raconter, je discutais avec une de mes collègues qui est pro Apple, quoi qu'il arrive. En fait, elle arrive pas à envoyer je t'en parlais tout à l'heure, mais elle arrive pas à envoyer un SMS par la voix avec Siri. Alors que moi, je fais ça tout le temps sur mes smartphones ou mes tablettes. Et c'est bluffant parce qu'il me comprend. On voit qu'il cherche. Enfin, quand je m'arrête de parler, on voit que Google cherche pour être sûr que j'ai la bonne phrase, la bonne intonation et que le chiffre 2, c'est pas 2, tu vois, parce qu'on a un accent un peu pourri où j'habite. Il essaye de comprendre et il fait des super phrases. Il se trompe que très rarement et ça marche bien. Alors que sur Siri, est-ce que c'est possible? La question, c'est est-ce que c'est possible d'envoyer un SMS avec Siri, par exemple? Donc à partir de là, si c'est pas possible, forcément, ils ont déjà perdu la bataille. Hein.
Si, c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai que oui, je pense que Siri est juste un petit peu en retard. Et c'est des technologies qui sont compliquées. Hein. Nous, on se positionne en tant qu'utilisateur en disant bah ouais, ça marche pas, il comprend pas. Et ce qui est normal, hein, finalement, tu t'attends pas. Enfin, quand tu utilises quelque chose comme ça, tu t'attends. Enfin, c'est soit ça marche, soit ça marche pas en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est des technologies qui sont compliquées à mettre en place. Et je pense que Google est très bien placé pour avoir un assistant qui fonctionne très très bien puisqu'ils sont ils ont les outils, ils ont les personnes qui sont spécialisées sur la question en interne pour travailler sur l'amélioration vraiment d'un mois à l'autre, et c'est vrai que Siri, on va dire qu'il y a probablement des gens qui sont partis. Il y a Samsung qui a racheté une société qui s'appelle Vive. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, et donc Vive en fait avait été recréé par des gens qui avaient initialement créé Siri, parce que Siri en fait on s'en rappelle peut-être plus, mais c'est une acquisition de Apple en fait. C'était une société qui a été créée je sais plus, au courant des années 2010, quelque chose comme ça, au début des années 2010, et du coup qui a été rachetée par Apple, qui a été la technologie a été intégrée et a été relancée dans l'iPhone. Et donc les gens qui ont créé Siri initialement sont partis pour créer sa société qui s'appelle Vive, et au bout d'un an ils ont été rachetés par Samsung. Mais c'est vrai que avoir ces compétences là et comment dire les fidéliser et faire en sorte qu'elles restent c'est pas forcément super facile même pour un géant comme Apple. Et on en parlait un petit peu en préparant l'émission, c'est vrai que on sent clairement que là Apple est en train de perdre du terrain en fait, ou de prendre du retard, on va dire. Ils ont jamais eu énormément d'avance, mais là ils sont en train de prendre beaucoup de retard par rapport à Alexa et Google. À la différence de Cortana, je pense que Siri, je l'enterrerais peut-être pas aussi vite que ça. On sait que Apple est quand même assez doué pour laisser les autres en gros ouvrir le chemin et puis après rattraper leur retard et les coiffer sur le poteau. Mais malgré tout, je pense que si j'étais à la tête de Siri et des équipes de Siri à Apple en ce moment, je me ferais un petit peu de soucis parce que c'est clair qu'il y a entre autres dans la capacité à intégrer les partenaires, par exemple. On sent qu'il y a quand même pas mal de lacunes du côté d'Apple et ça va être compliqué de rattraper le retard s'ils s'y mettent pas, mettent pas maintenant.
Moi, je reste sur Google Assistant, ça me va très très bien, il fonctionne super bien. Et pour la petite histoire, j'ai enfin mon Google Home Mini, alors je m'amuse avec lui à la même.
Génial.
On en parlait dans la préparation, mais on va peut-être, voire sûrement, faire un épisode autour de ce petit jouet-là et de tout ce qu'on peut faire avec Google Assistant. Et vous allez voir, on en fait quand même pas mal, même plus que pas mal en fait. Voilà, donc ça va enterrer Siri de toute façon, parce que nous, on va pas parler de Siri, on va parler de Google Assistant, donc à partir de là, c'est mort pour Siri.
Voilà, exactement. Et donc du coup, donc toujours pour parler d'assistant, donc il y a au-delà de la confrontation brutale avec Alexa, il y a aussi un nouveau. En fait, c'est même pas au-delà, c'est pour continuer dans la confrontation directe avec Alexa, donc Google a lancé ce qu'ils appellent les Google Smart Display, donc qui est en fait une nouvelle gamme de produits. Hein, finalement, c'est un peu comme quand ils ont annoncé Android Wear, un petit peu aux abonnés absents d'ailleurs. Mais l'idée, c'est parler. Il y a pas eu tellement d'annonces en plus au CES sur sa question là, mais bref, fermons la parenthèse. Et donc du coup, ils lancent une nouvelle ligne de produits, donc les Google Smart Display, et en fait ben c'est le concurrent direct de Amazon Echo Show, donc qui est un produit qui est uniquement disponible aux États-Unis, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros c'est un écran avec un speaker et Amazon Alexa qui tourne dessus. Donc en plus d'avoir l'assistant qui vous parle par l'intermédiaire du haut-parleur, on a aussi un écran dans lequel l'assistant peut afficher des informations ou jouer des vidéos. Donc voilà, donc l'idée de Smart Display, ça va être un peu ça. En gros, on se retrouve avec assistant qui tourne dans un matériel dédié en fait.
Je trouve ça sympa, hein. C'est cool d'avoir un écran supplémentaire chez moi, mais c'est pas un produit de trop. Enfin, pourquoi avoir un écran alors qu'avec mon Google Mini j'ai ma télé. Mon Google Mini j'ai ma télé. Pourquoi? J'arrive pas à l'expliquer en fait ce produit-là. Je trouve ça sympa. Je vais l'acheter. C'est pas Google qui le fabrique d'ailleurs, mais je vais l'acheter, c'est sûr. Mais en fait, c'est parce que je suis un geek et puis parce qu'ils me font le nouveau truc à la mode, même si c'est pas la mode. Mais je trouve ça étonnant d'avoir un écran. Tu vois, on a un Chromebook qui fonctionne avec Google Assistant, on a un smartphone qui fonctionne avec Google Assistant, on a un Google Mini qui fonctionne très bien avec Google Assistant, qui fonctionne très bien avec Chromecast. Tu vois, on a tous ces appareils qui coûtent pas cher finalement, et c'est comme ça, ils vont tuer tout le monde Google. Grâce à leur Google Mini, comme tu le disais, il y en a un toutes les secondes qui est vendu, mais parce qu'il vaut 59€, il vaut rien, quoi. En termes de coût, c'est supportable, ils vont envahir le monde. Mais là, les Google Smart Displays, ça va pas être 50€. Et je sais pas. Je me pose des questions sur est-ce que c'est pas un produit de trop.
Je pense que non. Enfin, c'est une question qui est assez valable, hein, mais. Je pense que non. Je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent faire avec ça, en fait, c'est coloniser les cuisines. Ça paraît assez marrant de le dire comme ça, mais je pense que on a tous vu des histoires de frigos connectés et de fours connectés, etc., etc. Je pense que, à mon avis, comment dire, se retourner pour parler à son frigo, c'est peut-être un petit peu moins simple que d'avoir un appareil comme le Echo Show ou le Google Smart Display sur le comptoir, qui est toujours là, qui peut vous afficher les recettes de cuisine, mais qui peut aussi vous jouer une vidéo YouTube, ou même éventuellement jouer la télé. Parce que bon, à l'arrivée, ça va probablement aussi permettre de regarder la télé directement dessus. L'écran est assez petit, mais ça reste quand même tout à fait jouable. Ou même de vous lire les mails, de vous donner des informations sur la météo, mais de façon un petit peu plus complète que simplement vous dire le temps qu'il va faire là où vous êtes. Donc non, moi je pense que c'est la suite logique des choses. Alors après, c'est clair qu'ils vont pas forcément vendre autant que des Google Home. C'est clair que ce sera pas forcément dans toutes les cuisines d'Amérique du Nord et d'Europe dans les 2 ans qui viennent, mais je pense que parier sur cette ligne de produits, c'est pas complètement illogique.
D'accord. On se l'a dit, je vais jamais dans la cuisine, alors du coup je peux pas. C'est pour ça que je n'avais pas cette vision là.
D'accord.
Tu me le dis, t'as les mains dans la farine, tu vas pas aller, tu retournes pas ton livre ou tu vas pas aller. Je comprends. Ouais, ok. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, alors, je retire ce que j'ai dit.
Ouais. et juste pour donner plus de détails, ouais, c'est tu parlais des prix. Alors je me rappelle plus exactement des prix. Il y a en gros 3 fabricants qui ont annoncé ces produits-là. Donc a priori c'est ou en tout cas pour l'instant, donc JBL, la marque d'autoradio et d'enceinte, LG et Lenovo. A priori sont les gens qui vont fabriquer les premiers appareils. Donc c'est pas fabriqué par Google, hein, c'est vraiment Google qui fournit le logiciel, mais c'est fabriqué par des fabricants tiers. Et on parle de, je crois que c'est moins de 200 dollars. C'est pas exorbitant, mais c'est pas non plus aussi abordable que Google Home.
D'accord. Quoi. Ouais, non, mais j'essaierai. Oui, je suis curieux quand même de voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces produits déjà étaient finis au CES, étaient en démonstration et utilisables. Donc, ça veut dire qu'on est sur une commercialisation très prochainement.
Ouais, je crois qu'il parle de cet été quand même. Ou il parle de ouais dans 4 mois, 3 4 mois, je crois, quelque
Ah,
chose
ça
comme
passe.
ça. Donc c'est pas non plus pour le mois prochain, mais ça va arriver d'ici
Non,
cet
c'est
été,
bien.
ouais.
Ok. Bon, bah, curieux. De toute façon, t'en auras un. Tu vas en acheter un, évidemment. T'as combien de Google Mini?
J'avoue que en fait, en gros, on a une pour donner un peu les détails, on a une tu sais la tablette de la grosse tablette de Samsung là, la tablette je sais plus comment ça s'appelle, Samsung Galaxy View, ou View pour ceux qui s'en rappellent. Donc on a déjà un écran dans la cuisine. Est-ce qu'on a besoin d'avoir deux écrans dans la cuisine? Moi je dirais oui, mais comme c'est pas que moi qui décide, va falloir faire un petit peu de
L'écran
travail
peut
de
tomber.
négociation. Ouais, mais j'ai pas envie de casser ma tablette juste pour avoir une... Mais ça pour dire que non, mais je pense que c'est un usage qui est assez intéressant et oui, probablement, je vais probablement jouer avec d'une façon ou d'une autre. Aussi, un truc tiens à signaler pendant que j'y pense, Amazon a aussi lancé, alors je me rappelle plus du nom du produit, mais a lancé une sorte de mini réveil avec Echo qui tourne dedans. Donc il y a un écran de
Ouais.
forme ronde qui a été annoncé il y a quelques temps, et il y avait une caméra en fait au sommet de l'écran. Et ouais, voilà. Et donc ça pose plein de questions parce que est-ce que t'as envie d'avoir un écran, en gros un écran assistant connecté avec une caméra au-dessus de ton lit quand tu dors? Bon, il y a pas mal de gens qui ont répondu bah
Michel qui sont
non.
contents pour augmenter les vues sur leur site internet, je pense, mais peut-être que
Ouais.
c'est une caméra qui te vise et voit la température corporelle pour voir si t'es malade, si tu l'es pas. Non, je sais pas.
Ouais, moi, enfin bon, c'est même pour ça, tu vois, ça pose quand même tout un tas de questions. Et donc, il s'avère que Google a, enfin, Lenovo plutôt sur leur implémentation du Google Smart Display, ils ont carrément comment dire, un espèce de petit volet physique en fait qui bloque la caméra. Donc, du coup,
Mais
vous
pas
pouvez verrouiller, enfin, vous pouvez bloquer la caméra et c'est physique et en gros, c'est pas contrôlable à distance. Donc, en gros, quand le truc est bloqué, il y a que vous qui pouvez le débloquer en ayant accès au
Ouais.
matériel, quoi.
Ok, non mais c'est bien. C'est à voir. À voir. Je suis curieux
Voilà.
d'avoir tes retours, hein, puisque dès qu'il sort, bah de toute façon, tu auras plus de chances de l'avoir que moi. Ne serait-ce que parce qu'il sera peut-être pas commercialisé en France tout de suite. Mais
Ça va
en
prendre un
tout
peu de temps,
cas,
je
curieux
pense.
d'avoir ses retours. Si on continue dans toujours chez Google, hein, forcément, on parle de Android Auto. Alors, moi, j'ai survolé le sujet. Par contre, toi, tu es plutôt intéressé par ça.
Ouais, Android Auto. Alors, faut savoir qu'aussi Android Auto, finalement, c'est un petit résumé. En gros, l'idée, c'est d'avoir Android dans votre voiture, en fait. Donc, le système stéréo et le système, comment dire, le système audio de divertissement de la voiture, en gros, est fait par Android. Enfin, est fait par Google et sous Android, et donc vous permet de connecter votre téléphone et d'avoir accès à votre téléphone par l'intermédiaire de la console centrale
OK.
de la voiture. Donc, ça,
Ouais.
c'est l'idée d'Android Auto. Donc il y a un certain nombre de constructeurs qui commencent à l'intégrer. C'est pas un raz-de-marée incroyable, mais ça commence doucement à venir, on va dire. Et puis à côté de ça, il y a aussi la possibilité donc d'acheter des autoradios en gros qui viennent s'installer après avoir acheté votre voiture qui fonctionne aussi sur Android Auto, et aussi de faire tourner Android Auto directement sur votre téléphone quand vous êtes dans votre voiture. Donc Android Auto, c'est aussi une application qu'on peut télécharger sur Google Play, qu'on peut installer sur son téléphone. Et donc dès que vous arrivez dans votre téléphone, dans votre voiture, là c'est intéressant. Dès que vous arrivez dans votre voiture, le téléphone, en gros, peut, dès qu'il détecte le Bluetooth, par exemple, peut basculer sous Android Auto. Et donc du coup, vous avez l'interface graphique d'Android Auto qui est censée être un petit peu moins distrayante, on va dire, que le téléphone de base. Et qui vous permet de contrôler votre téléphone à la voix. Et donc, désolé pour cette super longue intro, mais il faut savoir que Google Assistant arrive aussi sous Android Auto. Donc, toutes les fonctionnalités que vous avez sur Google Home et Google Assistant, vous pouvez aussi les avoir directement dans Android Auto. Donc, ça veut dire que vous pouvez poser n'importe quelle question à votre voiture en lui demandant, par exemple, quel est le nom du président des États-Unis, et puis il va vous
Ouais.
répondre Donald Trump. Donc, je pense qu'il y a des usages un petit peu plus
Non mais c'est
intéressants que cela. Mais c'est intéressant de voir que ouais voilà Google Assistant arrive partout, non, y compris dans
c'est
les
c'est bien parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup sur mon smartphone finalement et en voiture ça me sert pas mal. Je réponds au téléphone sans toucher mon téléphone, je lance un appel sans toucher mon téléphone, je réponds à mes SMS, il me les lit, je touche pas mon téléphone et ce qui fait que je continue à utiliser mon téléphone en gardant mes deux mains sur mon volant, en regardant et sans être perturbé par mon appareil. Moi je trouve ça bien. Après je sais pas si légalement on a le droit ou pas, parce qu'en France c'est compliqué d'utiliser son téléphone. Là il y a une nouvelle loi qui est passée qui va faire mal. Si tu fais une infraction avec ton téléphone en main, c'est un retrait de permis direct. Donc voilà. Donc aujourd'hui n'ayez plus votre téléphone dans vos mains parce que vous aurez plus de voiture. Enfin vous aurez toujours la voiture, le droit de l'utiliser, donc comme c'était fait. Donc faire attention à ça. Donc ça peut être une solution qui est plutôt intéressante. Ok, moi je signe, je veux bien. Là je viens d'installer Android Auto sur mon smartphone là, à l'instant, tu vois. Donc tu.
D'accord. Et tu vois, on parlait d'assistant et donc toutes les choses, par exemple, on va prendre l'exemple de la domotique, toutes les ampoules connectées, etc., etc. Et ben, ça veut dire que potentiellement, c'est quelque chose que tu peux contrôler à distance directement dans ta voiture, typiquement, tu vois. Pour te donner un exemple des usages peut-être un petit peu plus intéressants que demander le nom de tous les présidents des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui peut être aussi un usage intéressant quand on s'ennuie en voiture, mais l'idée, c'est d'avoir assistant qui d'un coup le même assistant que tu as à la maison, ouais, et ben, tu le retrouves dans ta voiture.
Bien. Et je peux, tu crois que je pourrais piloter, par exemple, je sors de chez moi, j'ai oublié d'éteindre mes lumières qui elles sont pilotées par mon Google Mini, est-ce que je pourrais les éteindre à distance?
Exactement. Ah, ça, c'est cool. Exactement.
Ou mon fer à repasser. Il y a toujours la hantise de se dire putain, je l'ai éteint, mon fer à repasser en partant là. Du coup, on fait demi-tour parce que on veut pas cramer la baraque. Si j'ai un truc comme ça qui me dit ok tu l'as éteint ou je l'éteins pour toi, c'est génial, je vais gagner des heures de route. Hein.
Ouais, il y a ça, il y a moi je pensais aussi à ouvrir la porte du garage par exemple, tu vois, tu peux à partir du moment où ta porte du garage est connectée, alors bon, faut que ta porte du garage soit connectée, mais tu vois, c'est un truc que tu peux faire, tu peux demander à Google quand t'arrives près de chez toi d'ouvrir la porte du garage par exemple, tu vois. Enfin c'est des usages à mon avis qui ça paye pas de mine comme ça, mais je pense que ça rajoute une couche de plus en fait à la capacité de.
Ça va être sympa. Ouais, dans la voiture, ça va être sympa. Je lance le thermostat pour qu'il fasse chaud quand j'arrive. Je lance mon bain. Ok.
Exactement.
Je fais couler mon café connecté, ma cafetière connectée. Ouais, bien. Je prends. Ok, Justine, j'en veux. Bon, maintenant il faut tous les appareils du tour, mais j'ai téléchargé l'application. C'est bien. Bon, on n'avait pas que ça. Il n'y avait pas qu'Android Auto qui était intéressant. Tu me parles de télé. Ça fait deux fois que tu me parles de télé. Tu dois être fan de séries, de films ou je sais pas quoi, mais tu veux me parler, nous parler du.
De télé, donc c'est un fabricant. C'est juste une petite news en passant, mais donc toujours dans la vague de Google Assistant, Hisense, qui est un fabricant chinois, je crois. Mais qui vend quand même, je pense qu'il commercialise aussi en Europe.
Moi, ça me dit quelque chose, mais sincèrement, je sais pas si j'en ai vu, en vente. Mais ils ont un site internet français, hein, donc.
D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc fabricant de télé.
Ils vendent en France, il n'y a pas de problème.
J'allais sur le site de Boulanger là pour vérifier. Mais donc du coup, tiens d'ailleurs, Boulanger fait un rappel d'un overboard, intéressant. Rappel produit. Donc Hisense propose d'intégrer Google Assistant directement à leur télé. Donc là encore, tu vois, tu peux imaginer une intégration directe avec YouTube, une intégration directe avec Netflix par exemple, pour directement jouer des séries en les commandant la voix. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu un exemple anecdotique. Faut dire ce qui est, mais on se rend compte que Assistant devient de la même façon qu'Alexa l'était l'année dernière, intégré à n'importe quel produit, et tous les fabricants veulent avoir leur intégration Assistant pour se démarquer un petit peu de la concurrence. Quoi, ça devient une offre. Quelque chose qui te permet.
Ouais. Bah c'est bien de l'avoir dans une télé. Moi, typiquement, si je l'avais dans ma télé, ça serait cool. Hein. Parce que j'aurais pas besoin d'un Google Mini en fait. Bon, faut que.
Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Ou disons, tu n'auras pas besoin d'avoir un
Dans
Google
mon
Meet
salon.
dans ton
Oui,
salon.
oui, toi,
Parce que ça, exactement, tu vois, ça résout pas le problème de pas avoir de Google Mini dans les toilettes, par exemple,
Et
ou
Dieu
dans la
sait que c'est
salle de bain.
important d'avoir un Google Mini dans les toilettes. T'as une salle d'eau connectée, c'est ça? Ok, Google. Ok, c'est cool. Bon, on voit les dérives de Google Mini, j'imagine qu'il y a des Google Assistants. Il y a des tonnes de trucs qui doivent. J'aimerais bien voir la base de données que Google se fait, hein, parce que j'imagine qu'il récupère tout ce qu'on dit. D'ailleurs, on voit. Mini, comme dans Google Assistant, on voit tout ce qui est dit, parce que tu sais, on peut voir ce qui est, écouter ce qu'on a dit sur Chrome. En fait, sur ta page d'utilisateur sur ton compte Gmail, tu peux écouter tout ce que tu as dit. Alors, c'est un peu flippant parce que tout ce que j'ai fait sur mon téléphone, envoie un SMS à un tel, il me le note et je peux cliquer sur play et j'écoute ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a...
Ouais.
Et j'entends ma voix,
Et t'entends
c'est
ta
horrible, je suis
voix.
désolé pour vous d'entendre cette voix-là tout le temps. Entendu, j'ai une gorge qui est. Je suis balade en fait, ça s'entend peut-être pas, mais j'ai super mal à la gorge. Et donc c'est encore pire aujourd'hui pour vous, je suis navré. Mais ouais, j'entends ma voix et j'imagine que Google le garde ça quelque part pour compiler tout ça et puis peut-être faire améliorer Google Assistant déjà. Je sais pas ce que je voulais dire, mais ça me paraissait sympa au début.
Tu parlais d'écouter ta voix, d'envoyer, d'avoir la liste de
Ils vont
toutes les choses que
analyser,
tu
puis ils vont
fais.
l'améliorer. J'ai entendu dire, voilà, c'est ça, j'ai entendu dire que tu sais, t'as la voix qui te répond, là, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, la petite voix dans Google Mini, là, enfin, Google Assistant, elle a une voix très robotique, et apparemment, cette voix va être hyper modifiée et sera est bluffante. Il y en a qui ont entendu la nouvelle voix qu'elle va avoir, et elle est quasiment indissociable d'une voix humaine.
Ouais, ils font. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la course à l'armement entre Cortana, Siri et Alexa. C'est des technologies qui sont assez compliquées à mettre en place, hein. Nous, on les prend. Voilà, ça fait partie de nos vies depuis quelques années maintenant. Et donc on prend ça pour acquis. Mais c'est quand même des technologies qui sont très très compliquées. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là et qui font des progrès assez significatifs, vraiment d'un mois à l'autre. Et c'est vrai que la voix, je pense qu'on va arriver, peut-être, ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans, mais on arrivera probablement assez rapidement à une situation où oui, tu es plus capable de faire la différence entre une voix robotique et une voix d'une vraie
Ouais, non,
personne,
c'est
quoi.
bien. Donc du coup, ils écoutent tout ce qu'on dit pour s'en inspirer, j'imagine. Ok, c'est
Exactement.
cool. Parfait. Bah, de toute façon, on le sait, hein, quand on utilise un produit Google, on sait qu'on leur laisse une partie de notre vie privée. Hein. Tu voulais aussi nous parler, bah, pas que de télé, ah mais finalement c'est en lien avec le premier. Tu voulais nous parler d'une voiture, les véhicules Kia. C'est vendu en France, hein, ça. Bon, j'ai vérifié, sont vendus en France, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, c'est un peu dans la même veine que ce que je disais tout à l'heure sur Google Home en fait. Donc Kia, qui est un fabricant de voitures coréen, eux du coup ils ont pas intégré Android Auto, pardon. Ils l'ont pas intégré dans leur voiture, mais par contre ils ont directement Google Assistant dans le système média de la voiture. Donc ça veut dire que tu utilises leur console et leur, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, leur système de divertissement embarqué. Et du coup Google Home et Google Assistant est directement intégré à ça.
D'accord. Là, je regarde, je suis sur le lien que tu as mis. Il y a une photo, j'ai pas lu le texte, hein, ça, je t'avouerai, je suis un peu fainéant aujourd'hui. Il y a une photo où tu vois le mec rouler avec sa voiture Kia, là, mais il n'a pas les mains sur le volant.
Ouais, je crois qu'il n'a pas envie
Ah
de
ouais, ok,
conduire.
il est à l'arrêt.
Non, ouais, c'est vrai que la photo est assez intéressante. Ça présente sûrement un ingénieur de chez Kia qui a un regard assez désagréable et qui a les bras croisés, qui est assis côté conducteur. Je sais pas exactement ce que c'est que cette photo.
Enfin, comme si c'était une voiture
Ouais.
autonome, quoi.
Je pense que c'est une voiture. Ouais, je pense que c'est des tests de voiture autonome, mais après c'est peut-être pas forcément la meilleure illustration
Ouais.
la meilleure illustration pour la news, mais bon, disons que l'idée c'est de. Mais de toute façon, il faut savoir que tous les fabricants de voitures aujourd'hui fonctionnent sur, enfin travaillent sur des questions de voitures autonomes. Et je pense que l'idée, c'est de dire aussi que au-delà de l'aspect autonome, les voitures vont aussi devenir de plus en plus intégrées à ces assistants, en fait.
Plus en plus intelligentes.
Voilà.
Moins d'accidents sur la route, moins de consommation d'énergie, enfin tout ça, tout ce qui va bien, on pourra boire et conduire cette fois. On n'aura plus l'obligation de faire l'un ou l'autre. pourra utiliser son smartphone en conduisant, ça va être génial, j'adore. Bref, ça c'est un peu plus tard encore dans l'année, d'ici 10 ans je pense. Je crois qu'on a fait le tour, Thomas, de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. On en a déjà dit pas mal. Moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, je sais pas pour toi.
Non, écoute, on a fait un spécial CES avec quelques news, donc c'était le premier épisode de l'année. On a mis un petit peu de temps à revenir, mais on est de retour. Ouais. Et puis donc on en discutait un petit peu en préparant l'émission. Je pense que ça va demander un petit peu de préparation, mais on va essayer de faire une spéciale assistant la semaine prochaine le prochain épisode plutôt. Et vous dire un petit peu nous parler un petit peu de tes découvertes puisque tu démarres, et de parler un petit peu de ce que Google Assistant peut nous apporter au quotidien.
Ah, chouette, un teasing, cool, j'adore. Ouais, voilà. C'est cool. Pour une fois qu'on sait ce qu'on va faire après, c'est cool, faut le dire.
C'est vrai. Bon. Du coup, on s'engage.
C'est bien, ça nous donne une vision à court terme, c'est plutôt sympa. Bon, bah, moi, je vais vous laisser, je vais te laisser aussi, Thomas. Comme d'habitude, Thomas, on peut te retrouver sur Twitter, je crois. Je te laisse donner ton pseudo si tu veux qu'on te contacte. De toute façon, je le rajoute toujours dans la news. Et puis, si peut-être ailleurs, je sais pas si on te retrouve ailleurs que sur Twitter.
Ouais, si vous voulez rentrer en contact avec moi, donc c'est @lethargic panda, LETHARGICPANDA, voilà, ouais. C'est ça. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas aussi à interagir avec le CKB Show, le handle Twitter du CKB Show. J'essaye de, enfin avec Nico, on essaye de poster des choses et de. De partager le plus possible et puis de répondre aux gens qui interagissent avec nous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et donc CKB Show, c'est @CKB _show.
Underscore, c'est tiré du 8 pour ceux qui sont pas très à l'aise avec underscore. Enfin ouais, toi, c'est pas 8 pour toi, mais pour nous français,
tiré
du bas, très très du bas, ou la touche 8.
Voilà, c'est ça.
Pour conclure, moi je vous laisserai, enfin vous savez où me retrouver, donc Google+, Twitter, Facebook, et sur évidemment sur mychromebook.fr. Je voulais juste remercier à nouveau les tipeurs. Vous savez que on peut faire de ces CKB Show en fait juste grâce à tous ceux qui nous font confiance et qui nous donnent un petit pécule tous les mois. Donc ça va de 1€ à 20€ pour le plus généreux d'entre eux. Merci à tous, que ça soit 1€ ou 20€, on est très très contents. Ça nous paye un café et ça va peut-être vous donner quelques surprises cette année, parce que l'année 2018 ne fait que commencer. On est au premier épisode et normalement il y en aura 12 comme l'année dernière. On a réussi à tenir le rythme. Et donc si vous voulez continuer à nous aider, sur Tipeee, je vous laisserai le lien en bas. Et puis moi je te laisse le mot de la fin, Thomas. Je vous dis merci à tous et à très très bientôt. Ciao, bye bye.
Bah merci à tous, encore une fois, de nous avoir accompagnés. On a fait un tout petit peu plus que ce qu'on aurait voulu faire, mais bon, on est toujours très bavard. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous sur Twitter, à commenter sur le post de l'épisode, et puis à la prochaine.